tu vas causer, oui. Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait. Arthur, il en est mort et on ne sait pas où il est passé. Ah mince alors Arthur, oui.
Allons mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis, hein? Dites-le à votre bon petit directeur, hein?
Aucun nom ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de mer. Et le directeur Furax attrapait des anthrax à dire qu'il se perde. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye le spiritisme ancien. Ça tourne les enfants, ça tourne.
Arthur,
es-tu là?
Oui, le corps.
Arthur, où t'as mis ton corps?
Moi, je n'ai plus de corps, le corps.
Arthur, as-tu du cœur?
Bolotte, les gars, rebolotte et 19 d'air.
Oh! Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh.
Félicie, je viens de renaître. Ce soir, tu te penches sur moi. Ah, c'est si bon parfois de naître. Plus rien, ni adulte, ni roi. Félicie, je reviens, ma douce, d'une fugue de 20 années. Je reviens, je suce mon pouce. Tu m'as déjà tout pardonné. Félicie, dis-moi ces histoires qu'on ne compte plus. Moi, je ferai semblant d'y croire, et toi d'y avoir toujours cru. Félicie, je viens de renaître, ce soir tu te penches sur moi. Ah, c'est si bon parfois de naître, plus rien ni adulte ni roi. Félicie, reine en ta cuisine. Si l'automne te pousse, je vais te donner mes bourgeons pour reverdir les herbes rousses que j'ai plantées dessus ton front. Si l'hiver t'entraîne, à quoi me servent mes printemps? Félicie, attends, je t'emmène. Tu vois, je suis là comme avant. On ira s'asseoir sous le chêne à regarder passer les grands. Félicie, je t'aime, je t'aime. Félicie, Félicie. Maman.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
La musique.
Caravanana maximum.
Je me fous du
sorry, 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 sor
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pain, vive le soleil. Vive
les oreilles.
Vive.
Yeah.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Nantes, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et aux autres formes de création curieuse, hors normes, non commerciales, etc. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la violoncelliste Soizic Lebras. Bonjour Soizic.
Bonjour Christophe.
Et alors, on vient d'écouter un extrait des cinq esquisses, pardon. Le morceau s'intitule « Premier des cinq ». Et alors, peut-être on en reparlera tout à l'heure. Mais avant tout, j'aimerais savoir quelle formation musicale as-tu suivie ?
Alors, j'ai une formation de musicienne interprète classique. J'ai appris le violoncelle dans les écoles de musique et les conservatoires. Et puis, au moment de la fin de mes études, j'ai été donc un petit bout de temps, quelques années, 4 à 5 ans, musicienne classique interprète.
Ah oui, donc tu as vraiment interprété du Bach, on y reviendra tout à l'heure, et d'autres, Vivaldi, tout ça, non ?
Oui, tout à fait, voilà, les compositeurs. Compositrice de musique classique et notamment tout ce qui tous les compositeurs qui ont écrit pour violoncelle, effectivement je les ai traversés, les ai rencontrés.
Mais bien sûr, mais alors est-ce que tu étais féru de musique classique dans ton adolescence? Peut-être pas, peut-être qu'il y avait d'autres musiques que tu écoutais.
Et bien étonnamment non, voilà, j'étais tout à fait féru de musique classique pendant mon adolescence. Je dirais même que ça a été ça reste une musique qui m'a construite. Ça reste une musique de référence pour moi, ce qui veut dire que je continue d'écouter de la musique classique. Je prends plaisir aussi à la jouer, même si j'en joue plus, on va dire, sauf exceptionnellement dans des projets très spécifiques, mais qui s'intègrent dans une démarche plus contemporaine ou de musique expérimentale. Mais oui, tout à fait. J'ai gardé contact avec les premières émotions. Et ma première pratique de musicienne classique, des contacts très, très forts.
Oui, ça veut dire que tes études de musique n'étaient pas contraintes, c'est ça que je...
Alors, si la question c'est de savoir pourquoi tout d'un coup j'ai changé, on va dire, de pratique professionnelle, c'est assez simple. C'est parce que, je pense qu'entre mes attentes, mes rêves, mes fantasmes de musicienne et la réalité professionnelle de la pratique de la musique classique, j'avais pas bien compris en fait ce qui allait se passer pour moi. Et j'avais besoin de plus de liberté, j'avais envie de création, j'avais des envies de recherche, et voilà, donc j'ai...
Souvent les musiciens qui passent ici nous parlent du monde de la musique classique, parce que beaucoup sont passés par là, et ça n'a pas l'air facile, effectivement.
Mais après, je pense que moi, je pense que ma personnalité était vraiment de pouvoir, faire des choses avec d'autres personnes dans des contextes plus libres. Et c'est vrai que avec des envies de création forte et de recherche aussi.
Ben oui, voilà.
Ouais. Et c'est vrai que ça s'y prêtait moins. En tout cas, quand j'ai croisé ce qu'on appelle le milieu des musiciens, musiciennes, improvisateurs, improvisatrices, j'ai vraiment senti ce que c'était possible à cet endroit. Beaucoup plus, et du coup je m'y suis engagée plus largement.
Et c'était ça ma question d'après. Comment es-tu allée vers ces musiques hors normes? Ce sont des rencontres, des trucs que tu as écoutés?
Tout à fait. Alors c'est une personne, une musicienne que j'imagine beaucoup de musiciens citent, c'est grâce et par Joël Léandre en fait que j'ai découvert ce milieu et ces musiques, les deux en même temps en fait. Voilà, donc à l'époque elle faisait énormément de workshops, elle sillonnait un petit peu la France en proposant des workshops, souvent dans les clubs de jazz d'ailleurs, mais pas que, parce que les deux pratiques sont associées, musiques improvisées, jazz et musiques improvisées. Donc voilà, j'ai fait cette rencontre avec Joël Léandre, et puis je suis allée à des concerts aussi qui m'ont marqué, où j'ai découvert effectivement des pratiques de la musique qui m'étaient totalement inconnues et qui... ne m'ont pas plu comme ça spontanément. Je n'ai pas le souvenir de choses en me disant c'est génial absolument, mais m'ont vraiment permis de réfléchir, de comprendre, de me poser des questions aussi sur ma pratique de musicienne classique et de mieux orienter un petit peu justement mes envies en fonction de tout ça, oui.
Oui, oui. Mais alors, comment es-tu venu, tu nous l'as dit, mais comment s'est fait le passage, la transition, je ne sais pas comment dire, entre l'apprentissage classique, qui est quand même une certaine rigueur, une certaine chose, et l'improvisation? Comment on passe de l'un à l'autre?
Alors, c'est à la fois une bonne question, et en même temps, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup d'éléments à donner, parce qu'en fait... Je me suis retrouvée dans ce workshop avec Joël Léandre. Je n'avais absolument aucune pratique de l'improvisation en amont. J'y allais, parce qu'on m'avait conseillé d'y aller. J'étais vraiment ignorante, on va dire, et je n'avais pas plus d'outils liés à l'improvisation avec moi. Ça se passait comme ça à l'époque, je sais pas. En tout cas, elle proposait à chacune de passer, d'aller sur scène et de jouer quelque chose.
Oui.
Voilà, en improvisation. Et en fait, j'avais un trac monstrueux, mais je suis allée, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allée sur scène. Et là, le trac a disparu totalement. Et en fait, c'était une révélation. Je pouvais improviser, enfin, je pouvais jouer. Sans souci et avec grand plaisir, tout ce qui me passait par les doigts, la tête, c'était une évidence en fait. J'ai pas eu. C'est une espèce de. Ouais, c'est ça, une révélation. Donc je ne saurais pas te dire si c'était. Si c'était normal ou anormal ou si c'était. J'avais besoin de ça, je cherchais ça, mais en tout cas pour moi ça a été une évidence.
Ah puisque tu parles de normal, je crois pas que ce soit dans la norme. Moi j'ai connu pas mal de musiciennes amateurs, hein, si tu veux, ou musiciens amateurs qui ont des difficultés justement ayant subi, tu vois, comment je dis, subi un apprentissage classique assez strict, ils sont incapables de. Par exemple, le piano, c'est drôle parce que le piano, je me souviens de trucs où moi j'appuie sur les touches, je faisais n'importe quoi, et les copains et copines qui avaient appris le piano en étaient incapables, quoi. C'était pas possible.
Mais je pense que moi j'avais vraiment ça au fond de moi, parce que ça, j'avais le même souci en tant que musicienne classique vis-à-vis de mes professeurs de violoncelle. Chaque morceau que je jouais, par exemple pour une audition ou un examen, je le jouais à chaque fois différemment. C'est-à-dire, je n'étais pas capable d'interpréter de la même façon le même morceau. Donc, j'avais toujours cette nécessité de retraverser quelque chose sans savoir tellement où j'allais et de le faire complètement différemment. Ah. Et même mes professeurs étaient très anxieux pour moi parce qu'ils s'attendaient au meilleur comme au pire.
Ah, ouais,
du coup, ils ne pouvaient pas prévoir ce qui allait se passer. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment presque quelque chose d'évident pour moi. Je ne sais pas faire deux fois la même chose.
Tu avais des aptitudes à ça. Mais je crois qu'on va en reparler de ça, de toute façon. Également, je crois, en regard de tes études musicales, tu as suivi des études universitaires en rapport avec la musique.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est donc des études qui sont arrivées dans un second temps, après avoir été musicienne classique, justement professionnelle, puisque j'ai un peu cherché. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire, vu que j'étais assez déçue par... la professionnalisation en tant que musicienne classique. Et donc, j'ai repris des études d'histoire et je me suis dit, ça va être l'occasion de m'interroger un petit peu sur ma pratique. C'est-à-dire comment moi, étant née en 1976, je me retrouve à faire du violoncelle, qui est un instrument qui a été inventé au milieu du XVIIIe siècle. Je joue un certain répertoire, voilà, j'ai une certaine pratique de la musique, et pourtant, ça ne correspond pas à mes envies, mes attentes. Comment j'en suis arrivée là, et essayer aussi de pouvoir un peu détricoter mon histoire, finalement, en utilisant le cursus universitaire, parce que je savais que probablement j'allais continuer, j'allais faire une maîtrise, une thèse, une recherche, ce que j'ai fait effectivement, jusqu'au bout.
Et est-ce que ces études de l'histoire, de la musique, influent sur tes créations musicales?
Actuellement, non. Ça m'a vraiment permis, mais c'est très important, de mieux comprendre quel mécanisme se mettait en place à l'endroit de ces pratiques de la musique et de faire des choix clairs de là où j'avais envie d'aller, parce que c'est quand même pas si simple en étant musicienne classique de renoncer à l'argent plus facile qu'en étant musicienne de musique improvisée ou expérimentale. Donc il y avait beaucoup de choses au-delà de ça, le confort global, je perdais énormément en termes de confort, en termes de visibilité, donc c'était vraiment l'inconnu pour moi, et j'avais besoin d'être très au clair par rapport à moi-même pour faire des choix tranchés.
Ah oui, voilà. Ouais, ouais. Et du coup, quelles ont été tes premières expériences en tant que musicienne professionnelle?
Les premières expériences, c'était quand j'avais 16 ans. et que j'étais que je faisais enfin mon professeur de violoncelle m'avait sollicité pour jouer dans l'orchestre de l'opéra de la ville où dans laquelle je faisais mes études à l'époque, c'est-à-dire à Besançon. Donc j'ai très vite joué en orchestre professionnellement, et puis j'ai aussi beaucoup joué en musique de chambre, en quatuor à cordes.
Ouais, en fait, c'est vrai que je pensais pas à ça. Moi, je pensais dans le milieu des musiques improvisées expérimentales.
Alors, dans le milieu des musiques improvisées expérimentales, d'abord, c'est un milieu très alternatif, en dehors d'une économie. Voilà.
C'est clair. Ouais.
Donc, c'est plus compliqué de parler de professionnalisation, mais oui, j'ai été. Je pense que c'est un milieu qui a ça de chouette, qui est très inclusif, qui accueille tout et tous de là où on vient, de là où on en est. Donc je me suis sentie très bien accueillie, très à l'aise. Et les premières personnes que j'ai rencontrées, ce sont Eddie Boubaker, Nuche Ferchowska. Voilà, c'est des musiciennes qui ont compté pour moi, en tout cas qui m'ont accompagnée dans cet apprentissage, on va dire, du milieu de la musique improvisée en France.
Eh bien, on va parler d'Eddie Boubaker, mais avant, j'aimerais qu'on parle du premier morceau qu'on a écouté de ce disque, qui est sorti en 2009, je crois, 5 esquisses bleues solo du dedans. On a écouté la première pièce en débutant l'émission. Est-ce que tu peux nous parler de ce disque? Était-il conçu comme une suite, par exemple?
Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Il a été conçu comme une suite. Alors, c'est vraiment mon tout premier disque. C'est important. J'ai eu la chance donc de pouvoir le sortir sur ce label qui existe depuis très longtemps, qui est donc le petit label qui est basé à Caen. C'est pensé un petit peu comme une suite, j'aurais du mal à dire, c'est une suite, mais il n'y a pas, en fait, la seule logique qui fait que ces pièces se suivent, c'est le titre, en fait, qui relie toutes les pièces. Après, dans la logique de composition, d'improvisation, elles sont, c'est plutôt des fragments. En fait, fragments, des bouts de matériaux, des bouts de développement, c'était un peu comme une présentation un petit peu de là où j'en étais en 2009 dans mes recherches sonores.
D'accord. Bon, alors là, on va passer à autre chose. Ton duo avec Eddie Boubaker, on va écouter un extrait de l'album Accumulation d'acariâtres acariens. Le morceau, c'est L'intrusion du vent, et on va écouter une bonne partie, le début. On va pas l'écouter en intégralité. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Et nous recevons aujourd'hui Soizic Lebras. Alors, on vient d'écouter un extrait de ton duo avec Eddie Boubaker. Bah, peux-tu nous parler, tu as sorti plusieurs disques, je crois 3 ou 4, je ne sais plus, avec Eddie Boubaker. Peux-tu nous parler de cette collaboration? Comment vous êtes-vous rencontrés et qu'est-ce qui vous a poussé à vous associer?
Oui, tout à fait. Alors, Eddie Boubaker, c'est vraiment un des premiers musiciens improvisateurs avec lequel j'ai joué. Et du coup, c'était une très belle rencontre, parce que d'abord, c'est quelqu'un humainement de très chouette, et aussi un très, très, très beau musicien. Donc moi, quand je l'ai croisé, on a fait effectivement 3 disques ensemble, donc c'est beaucoup. C'était agréable, en fait, simplement. Je crois qu'il y avait quelque chose de très chouette à jouer tous les deux, et du coup, on a poursuivi cette collaboration pendant 3 ans d'affilée. Et puis après, chacun a repris d'autres chemins, mais ça a été vraiment une rencontre importante, oui, pour moi.
Mais alors, je pense savoir la réponse, mais il s'agit d'improvisation libre, totalement libre, aucune directive, aucune trame?
Tout à fait. Alors avec Eddie, c'était vraiment ça, on était en improvisation libre.
Oui.
Non idiomatique, libre et vraiment dans l'instant, sans se dire quoi que ce soit, à part de jouer ensemble. Ça, oui, effectivement.
Mmh. Alors, oui, voilà, moi je voulais passer cette pièce aussi parce que, tu sais, comme je t'ai dit en antenne tout à l'heure, on n'est pas une émission de spécialistes entre nous, on jargonne et tout ça. Il y a des gens qui nous écoutent, des militants, des gens en voiture, tu vois.
Mmh.
Il est 15h de l'après-midi. Et donc, du coup, on a entendu pas mal de frottements, de jeux, je veux dire, inhabituels.
Mmh.
Même si on a l'habitude dans cette émission, tous les auditeurs ne sont pas forcément familiers de ces pratiques. Et qu'est-ce que... Je crois que c'est même une question que j'ai jamais posée d'ailleurs. C'est dommage. Qu'est-ce que l'improvisateur cherche quand il utilise ces techniques qu'on appelle étendues, c'est-à-dire jouer pas façon inhabituelle. J'aime bien de jouer de façon inhabituelle.
Oui, tout à fait. On appelle ça les techniques étendues. Et effectivement, on joue. On ne fait pas sonner l'instrument comme il est censé sonner, comme on a appris à le faire sonner pour jouer un certain répertoire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, pourquoi moi je fais ça? Tout simplement parce que j'aime explorer tous les potentiels sonores de mon instrument. Ça fait vraiment partie d'une recherche que j'ai depuis très longtemps. C'est-à-dire, c'est à la fois un plaisir de faire sonner cet instrument et aussi de le faire sonner pas forcément comme on attend qu'il sonne, parce qu'en fait il a un potentiel sonore incroyable en fonction de la façon dont on tient l'archet, en fonction de la vitesse de l'archet, en fonction de la façon dont on tend l'archet, en fonction de la pression qu'on met de la main gauche sur la corde, si on l'effleure, si on va vite, en fait il y a plein de gestes. Plein de gestes, de façons de faire sur l'instrument qui font que la palette sonore est vraiment complètement dingue. Donc c'est un peu dommage, mais ça c'est mon point de vue, de se limiter à un son plein, timbré, avec un archet qui va à une certaine vitesse pour avoir un son qui ressemble à tous les sons que tous les violoncellistes fabriquent.
Ouais.
Donc voilà, moi c'est vraiment cette première recherche qui est très, très importante. Et la deuxième, c'est que comme on est dans cette recherche tout le temps de son, on s'étonne soi-même. Des fois, il y a des choses incroyables qui arrivent. Et c'est le début d'une aventure qui va être très longue. On le ressent très vite. Et après, idéalement, on aime bien le partager avec les autres. Et puis, chaque trouvaille, chaque nouveauté, on la combine avec d'autres sons, avec d'autres partenaires. Et puis, on tente des choses. Et donc, après, ça se construit comme ça, ça se développe comme ça.
Ouais. J'ai entendu, ça veut dire aussi jouer avec des objets. Tu pratiques ça?
Alors, au début, j'ai pratiqué ça, effectivement. J'ai commencé à mettre des pinces à linge, à chercher un petit peu. Mais maintenant, je ne le fais plus du tout. En fait, je travaille qu'avec mes mains et mon archet.
Mais c'est marrant. Tu dis ça parce que moi je me demandais justement si les musiciens se détournaient pas un peu de ce qu'on a beaucoup vu à un moment, tu vois, même le jeu non idiomatique comme on dit, c'était utilisé il y a quelques années. J'ai l'impression que certains musiciens s'en détournent actuellement des jeux étendus et tout ça.
Je sais pas, je pourrais pas parler d'un point de vue général. Moi, je sais qu'effectivement, je continue de pratiquer des techniques étendues. Mais en fait, ce qui est compliqué pour moi maintenant, c'est que j'ai besoin de plusieurs violoncelles. Et parce qu'en fait, les techniques étendues, elles dérèglent
Ah bah oui.
L'instrument qui est très sensible, parce que c'est des questions de pression sur la table, c'est donc et du coup, bon bah non, il se trouve que j'ai de la chance maintenant, j'ai trois violoncelles, donc je peux en fonction des projets que je fais changer d'instrument, mais pendant toute une époque, je n'avais qu'un seul violoncelle. Et c'est très compliqué de passer d'une technique étendue, d'une utilisation étendue de l'instrument à une technique plus normée, plus académique. L'instrument, il n'est pas d'accord pour ça. Ah donc, oui. c'est aussi des limites instrumentales, en fait, qui font qu'on ne peut peut-être pas toujours mélanger les deux. Et puis, ça demande beaucoup de travail aussi, autant l'une que l'autre, de maîtriser tous ces gestes. Et les journées sont courtes. Le temps est contraint, donc on peut pas tout faire. Donc peut-être c'est peut-être ça la raison. Il y a un moment on choisit, voilà, d'être plutôt.
Oui, bien sûr. Et on reparlera de traitement sonore, mais là j'aimerais bien savoir si tu as déjà expérimenté de jouer. Alors, tu sais, je t'ai dit en antenne que j'étais un petit peu guitariste, donc tu sais, nous, à la guitare, il y a les pédales d'effet.
Oui.
Et est-ce que tu as déjà expérimenté ça, des loopers, je sais pas, de la saturation, je ne sais quoi ?
Oui, tout à fait. Alors, je l'ai expérimenté assez récemment parce que moi-même, c'est-à-dire en ayant accès aux pédales, c'est assez récent comme expérience. Ah, et oui. Avant, ce qui se faisait le plus souvent et que je fais de moins en moins, c'est que je donnais mon son. Et puis, il y avait quelqu'un qui le traitait, quelqu'un d'autre, en fait, qui le traitait et qui faisait des transformations de ce son ou des spatialisations. Mais c'était mon son qui passait par sa proposition. Ouais. Et je l'ai fait un certain nombre d'années jusqu'à dire stop. En fait, j'en ai eu marre d'être juste son ressource et de ne pas avoir non plus la maîtrise de ce qui se passait après.
Ah bah oui, voilà. On va reparler de ça. Mais je voulais que tu l'as un petit peu évoqué, ce label, petit label que je ne connaissais pas du tout, avec sur lequel tu as sorti les trois albums avec Eddie Boubacar, notamment. Et je voudrais quelques mots sur ce label.
Alors, ce label, qu'est-ce que je pourrais te dire ? Donc, il existe depuis très longtemps, je ne saurais pas te dire exactement, mais peut-être 2005, ou... Il est lié à un collectif de musiciens très actifs sur Caen. Moi, j'avais rencontré à l'époque donc un contrebassiste qui s'appelait Nicolas Talbot, avec lequel j'avais joué dans des festivals, dans des espaces de pratique de l'improvisation. Et m'avait parlé de ce petit label. Voilà, c'est à cette occasion que la collaboration s'est faite aussi. Et après, je saurais pas t'en dire tellement plus, mais il y a plusieurs collections. Donc, tout ce qui est musique expérimentale, art sonore, recherche sonore, c'est la collection bleue.
Ah, voilà.
Mais il y a d'autres couleurs, notamment il y a toute une collection de jazz, plus jazz, accès plus jazz. Il y a aussi une collection accès plus voix. Texte, voilà. Je sais qu'il y a pas mal de choses, de belles choses.
Ouais, je suis allé voir, effectivement, ils ont pas mal de trucs. J'encourage les auditeurs à aller voir le petit label. Eh bien, je propose qu'on écoute maintenant cet instant qui me plaît tant, et puis on en parlera après.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres consacrée à la violoncelliste Soisy Clobra. Nous venons d'écouter la pièce Cet instant qui me plaît tant. Alors Soisy, tu m'as parlé par mail, d'une pièce électroacoustique, or je n'ai entendu que du violoncelle.
Ah. Dans une composition de musique.
Je t'avais pas mis le micro.
Pardon. Alors oui, pour te répondre, les deux sont possibles. On peut être dans une composition donc de musique électroacoustique et utiliser des matériaux instrumentaux pour faire cette composition de musique dite électroacoustique.
Ouais.
C'est ce que j'ai fait à cet endroit, c'est-à-dire que j'ai fait des prises de son spécifiques en faisant sonner mon instrument d'une certaine façon. Et avec ces prises de son, j'ai fait ensuite un montage, et donc composé cette pièce à partir de ces prises-là, autour de ce matériau qui est un matériau très banal en soi. C'est ma corde sol, effectivement, que je fais vibrer par des allers-retours avec l'archet, mais en travaillant cette question de la pression et de la vitesse de l'archet spécifiquement, donc avec des micro-variations dans la façon dont la corde vibre sur l'instrument.
Ah oui, voilà. Mais alors, tu sais, j'avais une question sur le geste. Est-ce que tu es intéressé par le geste? Mais le geste dans la durée. Mais du coup, il ne s'agit pas de ça, puisque il s'agit d'un montage.
Là, en tout cas, c'est un montage. Mais c'est une composition qui part effectivement d'un intérêt, on va dire, plus profond pour cette question du geste et de la façon dont on maintient le geste dans la durée et la façon dont le geste provoque des micro-variations dans le son. Donc c'est effectivement une pratique que j'ai depuis longtemps et qui est un matériau d'improvisation et de composition pour moi.
Ah oui. Mais alors peut-être on va plus généralement parler de ton intérêt pour la recherche, l'expérimentation. Lorsqu'on aborde ta musique, c'est un peu obligatoire de parler de ça. Est-ce qu'il y a une thématique, un ou plusieurs axes que tu privilégies dans tes recherches?
Alors actuellement, je pourrais parler de ce qui m'intéresse en tout cas actuellement, mais ça fait déjà un petit bout de temps. Les recherches en général, quand je les commence, elles durent un certain temps. C'est plutôt plusieurs années qu'une seule année.
Oui.
Là, on va dire depuis une petite dizaine d'années, je m'intéresse à la question de mon point d'écoute. Donc je pars vraiment de questions très liées à mes façons de faire, mes pratiques, la façon dont j'écoute, Et après, évidemment, je creuse ces questions-là. Et donc, en partant de mon point d'écoute, j'élabore des projets dans lesquels je peux à la fois répondre à la problématique qui est la mienne et en même temps imaginer un projet de création, donc de composition, qui rend compte de cette recherche. Donc c'est effectivement une façon habituelle que j'ai de faire à l'endroit de la musique, de la composition ou de l'improvisation. Les deux fonctionnent de la même manière.
Et je me suis demandé si la science ou les nouvelles techniques peuvent t'inspirer des idées de création.
Oui et non. Alors je dirais plutôt non. Je dirais que par exemple, si je prends ce projet qui s'intitule Back to 3D ou Back to 3D, l'idée c'était vraiment d'essayer de mettre mon point d'écoute en mouvement et d'imaginer que au lieu d'écouter le monde de façon fixe et posée, je me mettais vraiment à écouter les choses en marchant, courant, tête en bas, tête en haut, sautant, enfin bref, vraiment à cet endroit du mouvement. Et la seule façon, en fait, de rendre cette écoute était d'utiliser un moyen de captation qui est plutôt possible grâce aux technologies actuelles. Oui, voilà. Oui. Donc c'est plutôt des outils pour moi, des outils qui, je sais pas, ils sont à la fois inspirants mais pas tant que ça. Je vais quand même les chercher et puis après j'en fais quelque chose. Oui. Certains outils m'étonnent et puis après ça me permet d'aller ailleurs, mais c'est pas, je suis pas. Si je pouvais me passer des nouvelles technologies, je m'en passerais très bien.
Très bien. Très très bien. Non, enfin très bien, je ne sais pas. Mais... Et cette pièce qu'on vient d'écouter, comme celle intitulée Conférence pour un violoncelle et des oiseaux que nous écouterons après l'émission, c'est-à-dire après le dernier morceau, font partie de deux compilations, Fairplay 1 et Fairplay 2. Et peux-tu nous dire de quoi s'agit-il ?
Oui, alors Fairplay, c'est un réseau de compositrices à l'échelle française, mais pas que. Il y a aussi une antenne bruxelloise en Belgique qui s'est donnée pour mission d'œuvrer pour rendre un peu plus visible le travail des femmes compositrices et femmes et non-binaires, voilà, dans les musiques expérimentales, électroacoustiques, et puis il n'y a pas d'esthétique, enfin, c'est plutôt les musiques qu'on entend assez peu, on va dire, voilà. Oui. Mais sinon, ça reste assez ouvert. Voilà, c'est un réseau qui existe depuis une petite dizaine d'années maintenant, et qui, pour un peu contrer ces réponses qu'on avait habituellement de la part des programmateurs, programmatrices, mais où sont les femmes ? Ouais. En fait, on ne peut pas les programmer parce qu'on ne les voit pas, on ne sait pas où elles sont, il n'y en a pas. Donc, on s'était dit que ce serait peut-être bien de proposer des compilations, de faire des propositions de compilation du travail des compositrices. On a fait un appel à projet, et puis voilà, chacune a pu répondre à cette occasion. Ouais. Et on a fait deux compilations tout au début, à peu près. Voilà.
Ouais, ouais. Bah, effectivement, moi je suis allé voir les deux compilations Fairplay 1. Il y a une trentaine de musiciennes, et sur le 2, il y en a 80.
Tout à fait.
C'est énorme. Donc j'encourage les auditeurs curieux, parmi lesquels peut-être des programmateurs et programmatrices, à aller écouter ces compilations. Alors sur ton site, il y a la liste des artistes nombreuses avec lesquels tu as collaboré, vraiment des noms prestigieux. Mais alors, ce que j'ai vu, c'est que les femmes étaient en gras, contrairement au nom des hommes qui sont en normal, et les femmes sont en gras. Alors, je me suis dit, ça relève d'une volonté de visibiliser.
Oui, tout à fait. Effectivement, je suis assez militante à cet endroit-là. Dès que je trouve des astuces, parce que ça c'est vraiment une astuce, mais ça fait partie, c'est une préoccupation permanente pour moi d'essayer d'être de rendre visible ou audible plus souvent, dès que j'ai les moyens à ma petite échelle, de faire quelque chose. Oui, je m'autorise.
Mais alors, est-ce que tu
certaines coquetteries, on va dire.
Ouais. Est-ce que tu as toi-même vécu des situations discriminantes en tant que musicienne, ou des situations un peu...
Alors, oui, j'en ai vécu, j'en vis encore, et je pense que ça va continuer. Oui. C'est bien pour ça que c'est bien si on est nombreuses à être attentifs et attentives à ça. Par contre, j'ai pas de solution immédiate. Je sais que c'est des choses à détricoter, que ça demande un gros travail de fond, que ça demande d'être beaucoup, on va dire, dans la pédagogie, d'expliquer pourquoi, voilà, le système favorise plutôt les hommes que les femmes, Donc ça reste un travail de tous les jours, une préoccupation de tous les jours, en tout cas pour moi. Et je sais que on va pas résoudre tout ça d'ici demain. Voilà. Mais donc, quelque chose qui doit se poursuivre et qui va se poursuivre encore longtemps, je pense.
C'est un travail de longue haleine, mais néanmoins, je pense que j'entends dire que les choses se sont quand même améliorées depuis MeToo, tu vois, même au niveau institutionnel, par exemple.
Oui, 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 bien sûr, j'entends que les choses évoluent, ça c'est sûr, c'est tout à fait vrai.
Alors, le réseau Fairplay est toujours en activité ?
Oui, il est toujours en activité. Après, c'est un réseau qui fonctionne que sur les bonnes volontés des unes et des autres. Et du coup, on ne peut pas dire qu'il soit très actif, mais bon, c'est un réseau. Ça met en relation les personnes entre elles. Et ça, pour ça, ça fonctionne, oui.
Et ben, très bien. Il y a un site internet, on peut aller le voir. Fait. Et puis, longue continuation et bon travail à Fairplay. On va écouter de la musique le Quatuor Brack. Et on en parle après, si tu veux.
Ok.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres, toujours avec Soizic Lebras. Alors, on vient d'écouter le Quatuor Brac. Peux-tu nous dire ce qu'on vient d'écouter? C'était...
Oui, c'est un concert qui a été donc enregistré en direct au Festival de Meurs en 2018. Donc c'est un festival jazz et musique improvisée, musiques improvisées, très ouvert, très, ouais. Avec un public prêt à entendre plein de choses très différentes. Donc c'était très agréable en fait de jouer à cet endroit. Et donc on est arrivé avec une proposition qui ressemble un petit peu quand même à un quatuor classique, même si c'en est pas un, puisque c'est violon, Tiziana Bertoncini. Alto, Vincent Royer, contrebasse, donc du coup, pas, voilà, Benoît Cancoin et violoncelle. C'est aussi un quatuor qui est vraiment en improvisation totale. C'est un choix qui a été fait. On se le redit régulièrement chaque année. On se redit, est-ce qu'on continue en impro, est-ce qu'on fait des projets plus écrits ou avec qui on va travailler. On fait des collaborations, notamment là, on collabore avec Thomas Lenne. Pour la prochaine année, on a déjà commencé à jouer avec lui, puis on va poursuivre ça l'année prochaine. Voilà. Donc,
mais alors, il me semble que le quatuor, j'ai du mal avec ce mot-là, moi, c'est créé avant que tu l'intègres.
Ah, tout à fait. En fait, il existait depuis plusieurs années quand j'ai effectivement intégré ce quatuor. C'était la violoncelliste Martine Altenburger a fait la création aussi de ce quatuor. Et du coup, elle a souhaité arrêter. Et c'est là où Benoît Cancoin, le contrebassiste, m'a contacté.
D'accord.
Ouais. Donc ça, c'est 2017.
Et c'est une formation qui dure dans le temps, y compris depuis que tu... Alors toi, tu y es depuis...
2017.
Ouais, c'est ça, 2017, ouais, tu viens de le dire. Donc ça fait quand même quelques années. Et je voulais savoir, ton avis, est-ce important dans l'improvisation d'avoir des partenaires de jeu avec qui tu développes tout un travail, une habitude, on va dire et qu'en est-il à ce moment-là, des rencontres uniques, des one-shots, comme on dit en anglais? Est-ce que ce sont pour toi deux exercices totalement différents, enfin des exercices, deux pratiques totalement différentes?
Alors ça reste de l'improvisation dans les deux cas, donc ça veut dire qu'on joue vraiment ce jeu de ne rien se dire ou de ne pas savoir ce qui va avoir lieu. Mais c'est vrai que, comme dans toute rencontre entre des personnes qu'on a l'habitude, avec lesquelles on a l'habitude d'entrer en dialogue ou qu'on connaît bien parce qu'on a passé du temps avec elles ou qu'on a une idée de qui elle est, de comment elle va faire les choses, ça n'a rien à voir avec effectivement une rencontre avec une personne qu'on ne connaît pas du tout et qu'on découvre sur le moment. Mais moi, j'aime bien les deux. Je continue d'apprécier de travailler. D'ailleurs, j'ai beaucoup de groupes, on va dire, d'improvisation qui existent depuis de nombreuses années, plus de 10 ans. Donc ça, c'est quelque chose de très chouette, mais c'est aussi des aventures humaines. Donc c'est sûr que c'est des choses auxquelles je tiens. Et puis, je continue d'apprécier de rencontrer d'autres musiciens, musiciennes. À l'occasion. Après, pour moi, c'est plus facile de faire des rencontres quand c'est en duo ou en trio. Parce que là, on a vraiment accès à l'autre, tant artistiquement qu'humainement. Oui. Mais c'est quand même ce que je privilégie. Mais après, je continue de... Enfin, ça reste, on va dire, ma pratique de la musique que j'apprécie le plus.
Oui, bien sûr. Quelques mots sur Thomas Lenne, tu l'as évoqué, mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus de votre collaboration avec lui. Alors, on va rappeler, on l'a interviewé chez Martine Altenburger. C'était le festival Le Bruit...
Bruit de la musique.
Le Bruit de la musique, exactement. Nous avions interviewé avec Patricia Thomas Lenne. C'était assez épique. Parce qu'il est pas, il part un peu dans tous les sens.
Il a une pensée divergente.
Ah, mais ouais, c'était compliqué d'avoir un moment avec lui. Mais il était très, très sympa, hein, mais il est pas simple, on va dire. Et comment ça se passe avec lui? Alors, il joue de quoi déjà? Comment on dit? C'est un synthé.
Synthé, dispositif électroacoustique.
Ouais, on va dire ça comme ça. Et donc, comment ça se passe avec lui alors?
Eh bien, alors, on a eu deux expériences assez chouettes. La première, c'était à Cologne, où on a joué en quatuor à cordes sans lui. La pièce a été enregistrée au moment du concert, et juste après, en deuxième set, il a récupéré ce matériau, et il a joué avec ce matériau. Donc ça, c'était une première...
Sans vous ?
Non, sans nous, mais avec ce qu'on venait d'enregistrer en quatuor. Ouais. Ça, c'était une première collaboration. Et puis récemment, encore en Allemagne, on l'a intégré, on va dire, complètement au moment du jeu et de l'improvisation. Et on a testé deux choses. Il avait quelques micros qui étaient posés aussi, donc il récupérait des sons du quatuor, soit via un musicien, soit plus largement. Et donc il faisait des transformations en direct. Mais il avait aussi son propre matériau sonore avec lequel on pouvait entrer en dialogue aussi. Donc là, un groupe peut-être plus classique.
Ah bah ça fait longtemps qu'on le voit avec ses fiches là. Et il n'y a pas eu de disque de Braque depuis beaucoup de temps. Depuis 2014 j'ai noté. Pour quelle raison ?
Bonne question. On a eu envie de le faire. On l'a évoqué plusieurs fois, notamment le concert Meurs. On aurait bien voulu le publier en fait, parce que c'était vraiment un très très beau concert. Je pense que ça demande beaucoup d'énergie. Ça nous demande, en tout cas à nous quatre, de beaucoup d'énergie d'aller jusqu'au bout, de faire aboutir des projets de disques, parce que c'est pas des choses si faciles que ça à faire. Et je pense que c'est un manque de temps et un manque de compétences en fait qui fait qu'on est arrêté à ces endroits-là et que ça n'a pas lieu, mais ce serait chouette si ça pouvait avoir lieu.
Ah oui. Et alors la question que je pose classique, qu'est-ce que ça signifie finalement de fixer de l'improvisation? Est-ce que dans la mesure où tu vois ce que je veux dire?
Moi, j'aurais envie de dire que ce qu'on fixe, c'est pas tant de l'improvisation au sens où c'est quelque chose qui ne se reproduira pas. Ouais. On fixe un moment, en fait. On fixe un moment qu'on a posteriori, à la réécoute, qu'on trouve qui nous parle, quoi, qu'on trouve qui a du sens et qui fait qu'on se dit « Ah ça, ce serait bien de le garder, d'en garder la trace. »
Ouais, d'accord. Très, très bien. Alors, on va écouter le quatuor LGBS, et puis on en parlera après.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et on est avec Swazik Lobra, violoncelliste. On vient d'écouter le Quatuor LGBS et c'était un live, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Alors, c'était un live et c'est une prise qui, donc, d'un concert live qui a été faite en octobre dernier lors d'une tournée d'une dizaine de jours quand même. C'était une belle tournée. Donc, on a fait donc, avec Anouk Janton, Patricia Bossard et Marie Schwab. Et on est passé par le Havre. Donc, on a été accueillis par Emmanuel Lalande et c'est Emmanuel Lalande qui fait la prise de son, voilà, de ce concert.
Super. Ah oui, donc c'est LGBS, Lobra, Janton, Bossard, Schwab.
Oui, tout à fait.
Et alors, es-tu à l'origine de ce quatuor ? Comment s'est-il créé ?
Eh bien, écoute, on peut dire qu'on est on est deux à l'origine cofondatrices de ce quatuor. C'est, je rencontre Anouk un peu par hasard à Marseille et je lui raconte que j'aimerais faire du quatuor à cordes, que j'ai envie de ça en improvisation. Et que j'aimerais travailler avec des femmes.
Oui.
Et que je lui dis que ce serait tellement bien, mais que je ne sais pas avec qui travailler, et je ne connais pas de musicienne française que je pourrais solliciter pour monter ce quatuor à cordes. Et là, elle me dit, puisqu'elle habitait en Suisse, eh ben écoute, moi, il y a deux Suisses que j'ai croisés qui, je pense, pourraient être intéressés. Et puis voilà, du coup, on les a contactés, et puis c'était bon.
Ouais, ouais. Mais alors, sur quelle base, quelle était l'idée, pour le coup là, on a vraiment, hein, contrairement à tout à l'heure avec Braque, on a vraiment la forme du quatuor de musique classique, tu vois, mais j'imagine que vous ne vous êtes pas associé pour jouer du Vivaldi. S'agit-il d'improvisation, de composition? Quelle était l'idée, quelles esthétiques vouliez-vous produire?
C'était vraiment l'idée d'une forme, effectivement, classique, académique, qui, en tout cas une forme qui existe, pour laquelle de nombreux compositeurs, compositrices ont écrit, qui a une histoire. Donc, effectivement, tout ça, on était d'accord avec ça, on avait envie de ça. Mmh. Mais on souhaitait vraiment avoir cette liberté dans nos esthétiques. Donc, l'idée, c'était de travailler ensemble en improvisation. Mais on utilise d'une certaine manière nos réflexes, nos façons qu'on a toutes les quatre, puisqu'on a toutes les quatre traversé ces études de musique classique, donc aussi eu cette expérience du répertoire classique pour quatuor à cordes. Donc on utilise aussi beaucoup ça dans l'improvisation. On respire ensemble, on part ensemble. Il y a beaucoup d'unisson. On travaille aussi des matériaux très proches, très communs, c'est normal, on est toutes les quatre, on joue un instrument à cordes. Donc il y a toute une histoire avec laquelle on fait, chacune là où elle en est, il n'y a pas d'obligation. Mais voilà, on voulait traverser cette pratique du quatuor à cordes dans un autre contexte.
Ouais, très bien. Et alors, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup, énormément de concerts avec cette formation, mais aussi dans la liste des concerts passés, des concerts annulés. Et je voulais te demander, comment as-tu vécu les différents confinements et le Covid ? Est-ce que ça a influencé tes créations ?
Non, je dirais pas. Je dirais que ça n'a pas influencé mes créations directement. Par contre, ça a changé les conditions de travail pendant plusieurs mois, puisqu'on ne pouvait plus faire de concerts. Ou moins, et que quand on pouvait faire un concert, c'était une petite fenêtre qui s'ouvrait à peine, et puis hop, elle se refermait. Donc non, c'est plus que les conditions de travail ont changé pour moi. Il y avait plus de temps de résidence, donc plus le temps de recherche, plus le temps d'expérimentation. Et il se trouve que ça tombait plutôt bien, puisqu'à cette époque, j'étais vraiment dans un gros projet de recherche et d'expérimentation. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est Back to 3D. Mmh. Donc, voilà, moi, je me suis plutôt concentrée sur ce projet pendant le confinement.
Ah bah, très bien, oui. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la pièce Entretemps de Patricia Bossard ? Est-ce qu'il y a une partition ? Y a-t-il l'idée d'une écriture collective, voire collaborative ? Comment ça se passe ?
Alors effectivement, donc cette pièce Entretemps a été composée par Patricia Bossart. Comment elle a travaillé ? Elle est partie de nos expériences d'improvisation à quatre. Elle a réécouté des concerts qu'on avait enregistrés. Et avec tous ces matériaux, elle en a fait une partition personnelle. que nous avons créée il n'y a pas si longtemps, c'était en 2021, je crois, à Lausanne, et que nous allons rejouer, enfin, que nous continuons de jouer, même si c'est, ça arrive une à deux fois dans l'année, mais par exemple, là, j'ai en tête qu'on rejoue au Festival des Musiques Démesurées en 2024. On va rejouer cette pièce, on va entre-temps, voilà, bon, à Clermont-Ferrand.
Super, super. Ah bah tu révises avant la fin de l'émission parce que je te poserai la question des dates à venir. En attendant, on va écouter ton trio avec Isabelle Dutoit, Yuko Oshima et évidemment Sozi Klobra. Et on écoute un morceau qui s'intitule Mani Yushage.
Yeah.
Voilà, c'était le trio Isabelle Dutoit, Yuko Oshima et Soizic Lebras, qui est dans notre studio. Soizic, alors, ça c'est une formation dont tu es à l'origine, ce trio. Qu'est-ce qui a provoqué l'envie de jouer avec ces deux fabuleuses musiciennes?
Ben parce qu'elles sont fabuleuses musiciennes, probablement. Et ben oui, effectivement, j'ai eu une espèce de coup de foudre pour le travail d'Isabelle Dutoit depuis longtemps, puisque je la connais depuis très longtemps. Je l'avais rencontrée aussi dans un cadre de festival, je me souviens, dans l'ouest de la France, et il y avait aussi Jacques Di Donato, enfin il y avait plein de gens comme ça, très très chouettes. Donc c'est des personnes géniales, et puis musicalement très exigeantes, c'est quelqu'un que j'avais, avec laquelle j'avais vraiment envie de travailler. Et Yuko, c'est pareil, je l'ai entendue dans un festival et ça m'a touchée, émue vraiment tout de suite, immédiatement, et je suis allée la voir juste après, et voilà, et puis je me suis dit, j'aimerais bien que ces deux personnes se rencontrent aussi, et voilà, et c'était parti une fois qu'on a commencé à jouer ensemble, et depuis 2015, on continue de jouer ensemble. On est vraiment très contente de se retrouver à chaque fois, c'est vraiment une très belle histoire.
Ouais, 2015, comme tu disais tout à l'heure, ça dure aussi, hein, c'est de la fidélité, tout ça. Et alors, pourquoi ce titre rouge ?
Alors ça, c'est une proposition de Yuko. Ce titre, qui a été accepté immédiatement. Et puis, ça s'est décliné, le rouge s'est décliné un petit peu aussi dans la question des titres, puisque chaque titre a un lien avec cette couleur. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Je crois qu'on est parti sur le rouge. On était d'accord avec cette couleur.
Et tu sais qu'ici, je me suis demandé, est-ce que ça n'a pas un rapport, une allusion politique dans le titre le rouge, quoi, tu vois?
Ça pourrait, mais ce n'était pas notre intention première. Après, je pense qu'il y a... Dans le rouge, c'est une couleur que chacune a pu facilement... je pense qu'elle nous parlait à chacune de façon probablement assez différente et que ça a vraiment été créer le consensus, en fait, surtout. Parce que c'est pas si facile que ça autant on se retrouve très facilement sur la musique, autant tout ce qui est la mise en mots de la musique qu'on fait, elle est pas, c'est pas une évidence, en fait, d'être d'accord sur les mots, sur...
D'autant que vous, si je comprends bien, vous ne parlez pas avant de...
Non.
Vous ne vous dites pas, on va faire ci, on va faire ça.
Non.
Ouais. Mais alors, ma question, je vais quand même y arriver à t'orienter vers là où je veux aller. Et en plus, tu viens de Nantes, tu sais que c'est une ville dans laquelle il y a une forte contestation récemment, lors de la contestation justement de la réforme des retraites. Et je voulais savoir si cette situation, cette ville, et puis si la situation politique, l'ambiance générale, influe-t-elle sur tes créations? Est-ce que ça te touche à un endroit particulier?
C'est une très bonne question et à laquelle j'aurais bien du mal à répondre. Je suis très sensible, effectivement, à toutes ces questions. Et je suis globalement quelqu'un de très impulsif aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère. Grave. Et ça, c'est quelque chose qui peut me mettre en colère. Donc je fais avec cette colère, on va dire. Je suis plutôt à ces endroits-là. En tout cas, j'essaye de faire avec cette colère. Mais je suis aussi, en tout cas en ce moment, depuis quelques mois aussi, et depuis plus longtemps, mais là très clairement en ce moment, en train d'essayer de voir à quel endroit la douceur peut à l'instar de la colère, être émancipatrice, c'est-à-dire m'aider aussi, enfin, à trouver des moyens de pas être que dans cette colère et de pas nourrir qu'une colère pour avancer, mais d'être aussi dans des processus, on va dire, moteurs et émancipateurs qui passent par la douceur et le consensus aussi, peut-être.
Eh ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas aussi? Ben oui. Alors, on va parler de Jean-Sébastien Bach. Tu as plusieurs travaux autour de la première suite pour violoncelle en je ne sais plus quoi majeur.
La première suite en sol majeur.
En sol majeur, voilà, de Jean-Sébastien Bach. Bien connu de tout le monde, hein, tout le monde la connaît celle-là, mais Pour quelle raison travailler particulièrement sur cette œuvre ?
Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que je pense que c'est... Alors d'abord, il y a une raison personnelle, c'est que c'est une œuvre que j'ai traversée gamine, en apprenant le violoncelle. Et puis après, moi, j'aime bien imaginer que les œuvres classiques puissent aussi être des matériaux en fait, de recherche, que ça puisse être des matériaux de citation, de recomposition, de les réutiliser, de les transformer. Ça tombe bien parce que Bach, il est mort, donc il viendra pas me chercher pour me dire que ce que je fais, c'est n'importe quoi. Donc, il y a aussi cet aspect-là, c'est que c'est une œuvre qui fait partie du domaine public, donc voilà, avec laquelle dont on peut s'emparer. Et puis, il y a aussi tout simplement l'idée que c'est une œuvre que tout le monde connaît et que pour moi, c'est un formidable... c'est un moyen de donner accès, même si tout le monde n'est pas obligé d'aimer. On connaît, donc on peut partir de quelque part pour aller ailleurs. Et pour moi, c'est important d'être... ce chemin-là a du sens pour moi, en tout cas maintenant.
Ouais. Alors, par quoi ça a commencé ? Est-ce que ça a commencé avec Triplicata ?
Oui. Alors, ça a même commencé avec Bleu Solo, en fait.
Ah, d'accord. Ça, oui, ouais. J'avais pas repéré ça. J'avais repéré Triplicata. De quoi s'agissait-il ?
Alors oui, en fait, c'est un matériau, je dis que c'est un matériau dense de recherche, c'est parce que j'ai vraiment, c'est comme si je continuais d'ailleurs de tirer de cette pièce plein de choses assez variées, de pistes de recherche assez variées, mais qui sont à la fois, c'est pas tant l'œuvre en elle-même, c'est aussi tout ce que j'ai vécu avec cette œuvre, c'est-à-dire je retraverse aussi la relation privilégiée que j'ai avec cette œuvre quand j'avais 7 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 12 ans, quand j'avais 18. En fait, toutes mes expériences vécues avec cette œuvre sont retravaillées par le biais de cette suite de Bach. Donc, Bleu Solo est vraiment la première pièce